Bonsoir à tous, que Dieu soit béni. J'ai aimé ce premier cantique chanté. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Vous êtes posé la question ? Moi, je ne comprends pas pourquoi Jésus m'a aimé. Pourquoi moi ? Il aurait pu en aimer d'autres qui peut-être l'auraient davantage mérité, parce qu'on parle de mérite, mais il lui a plu dans sa grâce de se révéler à nous. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Je ne cherche même pas à le comprendre, mais par contre, j'y crois. Et je sais qu'il m'aime et qu'il nous aime. Que Dieu soit béni. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, c'est vrai que dans plusieurs endroits, nous avons été sollicités pour parler de l'œuvre qui s'accomplit dans la région toulousaine. J'ai rectifié un petit mot, mais il est tellement gentil à mon égard, le frère. C'est pas l'équipe de M. Galifot. Hein. Je dirais, c'est l'équipe de Dieu. Il y en a davantage encore de Toulouse qui nous aide que nous sommes de Montauban. Hein. Non. Il me taquine. Mais je remercie tellement l'église de Toulouse pour son témoignage, son affection, son soutien, ses prières et entre autres, les ministères qui s'y exercent, qui nous aident beaucoup. J'étais, il y a quelques mois, c'était au début novembre, dans la région normande, et il y avait là-bas trois dames qui sont allées trouver leur pasteur en disant « Frère, dans notre grande ville, à Rouen, il y a beaucoup de filles dans la rue, il faudrait faire quelque chose. Alors on voudrait faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. » Et le frère a dit « Écoutez, le frère Galifot vient. » Posez-lui les questions que vous voulez. Et lors du camp, trois de ces personnes, deux jeunes filles et une dame, ont pris du temps avec moi pour me demander ce qu'il en était. Alors elles m'ont dit ce qu'elles voulaient faire, ce qu'elles avaient à cœur, mais comment aborder. Puis elles m'ont dit, voilà, on a prié, on voudrait créer une association. J'y sais bien. J'y dis, quel nom voudriez-vous lui donner ? Revivre. Alors j'ai souri, elle me dit pourquoi. Je dis parce que c'est le titre de notre association, Revivre. Ça les a encouragés, elles ne le savaient pas du tout. Et alors, dans ces jeunes personnes, il y a quelqu'un que j'ai connu il y a des années déjà, une jeune fille qui est grande, et elle est assistante sociale, elle s'appelle Audrey. C'est pas toi, non ? Mais... Ça a été pour moi comme un encouragement. Il tient une deuxième Audrey. J'espère qu'elle sera comme la première que nous connaissons et qu'elle aille de l'avant. Vous voyez, dans plusieurs endroits, que ce soit à Lyon, dans d'autres endroits, on m'a demandé dans le sud-est, il y a des gens qui sont conscients que c'est une tristesse de voir de plus en plus de personnes qui sont là pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs motivations. Il y a celles qui sont vendues. Il y en a d'autres qui le font pour avoir un peu d'argent. Tu te souviens de celle qui venait de Pau, qui se livrait à la prostitution pour pouvoir payer ses études à Toulouse, qui voulait faire assistante sociale comme Audrey. Alors imaginez-vous qu'Audrey a pu lui témoigner et de quelle manière. Donc on s'aperçoit que c'est quelque chose qui presque passe dans les mœurs, mais ne laisse pas sans conséquence. Et bien que Dieu soit béni chaque fois qu'il en sauve une. Et dans une autre ville, on m'a envoyé la photo d'une femme, ancienne prostituée, qui se faisait baptiser. On m'a envoyé sa photo, j'étais heureux. Hein? Je bénis le Seigneur, là où le péché a abondé, c'est ce qu'a dit notre frère, la grâce de Dieu a surabondé, à Dieu soit toute la gloire. Voilà. Et ça, c'est le travail, pas d'une personne. Hein? Je veux bien que vous le sachiez. Je ne peux pas aller seul dans la rue les voir. C'est pas possible. Et je ne peux pas y envoyer quelqu'un seul. Nous sommes toujours toute une équipe. Ils connaissent toute l'équipe. Et ils savent qu'il y a une église où ils sont reçus. Ils connaissent les pasteurs. Moi, je me fais une joie de leur parler des pasteurs. Moi, je suis content quand les pasteurs viennent avec moi. Et dernièrement, il y a un autre pasteur qui m'a demandé s'il pourrait venir. Je dis, bien sûr. Guy Galifot peut partir, hein, autre part. Mais le travail que Dieu a commencé, personne ne l'arrêtera. Parce que c'est lui qui aime les âmes. Que Dieu soit béni. Et je suis heureux pour l'église de Sainte-Agne qui nous soutient tellement dans la prière Que Dieu ait toute la gloire et merci à notre frère Gérard Goff et son épouse Isabelle, la famille. J'aimerais lire dans le livre de la Genèse, chapitre 37. Excusez-moi ces petites interventions, mais c'est toujours bon de partager des bonnes choses. Genèse, chapitre 37. Nous n'allons pas lire tout le chapitre parce qu'il serait long. Alors peut-être à partir du verset 2, « Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Versets 12 et 13. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Ils l'envoyèrent ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Verset 18, « Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Au verset 24, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Au verset, on pourrait dire cette citerne était vide. Hein. Au verset 28, il est dit au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Et enfin, verset 31-32, ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils l'envoyèrent à leur père, la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Amen. Voilà, pour comprendre les quelques pensées que j'aimerais partager avec vous ce soir, j'aimerais vous resituer le contexte de cela. Vous savez que Jacob, de par deux épouses et leurs servantes, a 12 enfants. Et en particulier, il en a eu deux alors qu'il était d'un certain âge, Joseph et Benjamin, et surtout Joseph parce qu'il l'a eu de la femme qu'il aimait, la femme qu'il avait rencontrée la première fois, la femme qu'il voulait épouser, mais le trompeur a été trompé, et au jour où il a cru avoir la femme qu'il aimait, son beau-père lui a donné sa sœur. Donc il a eu pas mal d'enfants avec cette première femme, mais lui, il vivait et il pensait à celle qu'il aimait au premier instant qu'il l'a vue. Et c'est que plus tard qu'il a eu donc Joseph avec elle. Et c'est pas bien, je l'avoue, d'avoir une préférence. Hein. Mais enfin, il avait une préférence pour Joseph. Et en plus, je vous dis bien, parce qu'il était d'un certain âge. Et bien sûr, ça ne fait jamais plaisir aux autres. Vous le comprenez bien. Et en plus, Joseph semble avoir une vie droite, une vie qui plaisait à son père, et quand il voyait quelque chose qui n'allait pas, eh bien, il le disait. Vous savez, ça, c'est des enfants, hein. Quand on a une nombreuse famille à la maison, on sait ce que ça veut dire. Et ça rapporte ce que l'un a fait, ce que l'autre a fait. C'est comme ça. Vous n'y changerez rien. C'est le monde. Mais ça déplaisait fortement à ses frères. De plus, Dieu s'est révélé à lui et lui a donné des songes. Et lui, ses songes, il les a partagés, bien sûr, avec sa famille, père, mère et frère. Et ça crée dans le cœur de ses frères, ce que vous comprendrez, une jalousie qui ne finissait de grandir. Alors c'est pour ça qu'on arrive à comprendre certaines phrases qui sont écrites, etc. Et quand la jalousie est là, qui peut arrêter la jalousie? C'est ce que dit la Bible. Qui peut l'arrêter? Alors, ses frères font paître les troupeaux. Joseph est près de son père et puis veut prendre des nouvelles de ses autres fils qu'il aime, c'est certain. Et il envoie Joseph pour prendre de leurs nouvelles, pour leur apporter également des choses. Et eux, ils le voient arriver de loin. Et quand ils le voient arriver de loin, immédiatement, ils ont et ils nourrissent de mauvais desseins. La jalousie ne peut entraîner qu'à faire du mal. Parce que la jalousie, elle engendre la méchanceté. Et entre la méchanceté et les actes, il n'y a qu'un pas qui est d'ailleurs vite franchi. Alors, il le voit arriver. Et puis, quand il arrive, la première chose... Alors, je ne sais pas si vous imaginez, lui, il arrive très naïvement. Il vient prendre des nouvelles de ses frères. Il vient leur en apporter. Il est tout content. C'est pas le petit Benjamin, puisqu'il s'appelle Joseph. Hein. Mais enfin, c'est un des derniers. Et il est content de voir ses grands frères. Les grands frères, ça a quand même de l'importance. Il vient tout content, tout heureux. Il est peut-être prêt à leur sauter au cou, à les prendre. Et quand il arrive, ils se saisissent de lui. Ils commencent à le déshabiller et ils le jettent dans une citerne. Sans revenir sur chaque détail. Une citerne. Qu'est-ce que c'est qu'une citerne? C'est un coffre, c'est un réservoir qui servait à accumuler les eaux pluviales. Ce qui veut dire qu'elles pouvaient rester, ces citernes, sans eau pendant des mois et des mois en temps de sécheresse. Et il arrive et il le jette dedans. C'est profond, il ne peut pas s'en sortir. Je me mets à la place de Joseph. Et ce soir, j'aimerais peut-être vous mettre à la place de Joseph. Et vous allez comprendre pourquoi. On le jette dans la citerne, et là, à quoi pense-t-il tandis qu'il est à l'intérieur? On vient de le jeter. Lui, il rêvait d'autre chose. Il a eu des songes qu'il comprenait plus ou moins. Il semblait qu'à son regard, il serait élevé. On le jette dans une citerne. Ça n'a rien de commun, ça n'a rien à voir. Je dirais même, c'est l'inverse qui se produit. Et là, vous savez que quand on passe par des moments difficiles, là-dedans, eh bien on pense. Et il y en a, comme disait mon frère tout à l'heure, pendant le premier chant du chantillon, il m'a dit ce chant, je l'ai chanté aussi, mais dans d'autres circonstances qui lui sont personnelles, que je ne dirai pas. C'est vrai qu'on pense. Quand on souffre, il y a bien des choses qui reviennent à la mémoire. Eh bien, je dirais, c'est la citerne de la jalousie. Il réalise que ses frères sont jaloux. Et tu te trouves peut-être dans ce lieu, ce soir, écoutant l'Évangile, et tu souffres parce qu'il y a autour de toi des gens, des membres de famille, ça arrive, des employés dans le bureau, des aides, des voisins, j'oserais pas dire, mais pourtant ça existe, des chrétiens, des frères et des sœurs qui sont jaloux. Parce que tu as réussi dans un domaine. Peut-être parce que Dieu t'a béni dans un autre domaine. Peut-être voire même parce que Dieu t'a donné des dons, des capacités que tu mets à son service. Et il y a comme une sorte de jalousie. Je peux vous faire une confession. Je suis vieux maintenant. En tant que pasteur, j'ai connu la jalousie. Je m'en suis humilié devant Dieu. Ne tombez jamais, jeune, dans ce piège. Quand j'entendais que dans une église, ça ne marchait pas trop bien, quelque part, au fond de mon cœur, je ne dirais pas que j'étais heureux parce que ça ne marchait pas bien, mais moi je me disais, ça marche bien. Et quand j'entendais que dans une autre église, ça marchait bien, ça me piquait, ça me faisait mal. Vous savez ce qu'on appelle ? La jalousie. Non, que Dieu soit béni. Un jour, il y a un pasteur qui m'a remis d'aplomb sur ce niveau-là, on a été avec le Seigneur. Il m'a dit, ça marche bien dans ton église ? J'ai dit oui, il m'a dit, c'est que d'autres ont dû bien pleurer avant toi. Ça m'a remis d'aplomb. Peut-être que moi, j'arrivais, je recevais le bénéfice de plusieurs choses, mais parce que d'autres avaient trimé et pleuré. Souvenons-nous, il n'y a rien, aucune bénédiction qui ne passera pas par les larmes. Si ce n'est pas maintenant, c'est avant, ce sera prêt, mais c'est nécessaire. Et la citerne de la jalousie, il était là. Comment pouvait-il simplement croire que ses frères étaient jaloux jusqu'à ce point? On peut avoir des moments de jalousie, mais ça peut passer. Mais là, c'est quelque chose qui est empiré, au point de vouloir la mort. C'est terrible. Tu es là et tu souffres. Eh bien, nous allons voir quel est le remède que Dieu donnera. En tout cas, ne répondons jamais par des moyens humains, des moyens d'hommes. Ça n'en fera qu'envenimer, empirer les situations. Mais il faut que le Seigneur vienne. Et lui, quand il intervient, il fait des prodiges et des miracles. Mais tu te trouves peut-être dans cette citerne de jalousie. Tu es là, tu sembles t'enfoncer, tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Mais tu n'as pas cherché quoi que ce soit. Tu n'as rien fait pour que cela t'arrive et ça te tombe dessus. Comme pour Joseph. Mais attends. La citerne, je dirais, c'est aussi la citerne de la méchanceté. D'ailleurs, l'un engendre l'autre. Vous avez remarqué, il nous est dit, vous lirez tout le chapitre. Quand il est dans la citerne, c'est quand même leur frère. Il crie vers eux et il pleure. Ce n'est qu'un adolescent. Il pleure et il crie, il reste sourd et indifférent aux appels de Joseph. Vous imaginez? Et c'est leur frère. Moi, je vois des bien-aimés qui vont aller, quel que soit le temps, le froid, etc., ils vont aller là auprès de gens qu'ils ne connaissent pas, etc. Ils le font par compassion. Et eux, ce sont leurs frères. Ils ne répondent même pas à leurs larmes. Ils le voient pleurer. Ils se moquent. Vous comprenez, puisqu'ils disent où sont ces songes, etc. Ils se moquent. Indifférents. On n'arrive pas à concevoir cela. Quelle citerne! Vous semblez pousser des SOS, des cris. Les gens ne répondent pas. Ils s'en fichent. D'ailleurs, c'est bien relatif au monde, indifférent, citerne de la méchanceté. Et Joseph est là, tout d'un coup. C'est comme s'il s'enfonçait de plus en plus. Jamais il n'aurait pu penser une telle chose de la part de ses frères. Quelle citerne! Cette citerne, c'est la citerne du rejet. On ne le considère plus comme un frère. Ils voulaient le faire mourir et ils vont le vendre. Autrement dit, ta place n'est plus parmi nous. Ta place n'est plus avec nous. Ta place n'est plus dans la famille. Va ailleurs, peu importe ce que tu deviendras. C'est la citerne du rejet. Et ça aussi, peut-être vous le connaissez. Simplement par le fait que vous êtes devenu chrétien. Alors, certains membres de vos familles ne veulent plus vous voir. J'ai connu ça. Je l'ai connu. Personnellement. Peut-être c'est par les gens qui travaillent avec vous. Parce que vous avez un jour rendu témoignage, eh bien, on vous met à l'écart. Ça ne veut pas dire qu'on vous y mettra tout le temps. Enfin, pour l'instant, vous êtes dans cette citerne, vous ne comprenez pas, vous êtes rejeté. Rejeté par par les copains. Souvent, quand on se convertit, c'est ce qui arrive. Hein. Les copains ne comprennent plus et ils nous rejettent. Mais c'est une bonne chose, ça. Je vous assure, c'est une bonne chose. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Ça va vous amener à compter sur Dieu. Et puis, au bout d'un moment, ceux qui vous ont rejeté, vous verrez ce que Dieu va prévoir pour eux au travers de vous. Vous souvenez-vous, le paralytique à la piscine de Bethesda, quand Jésus s'approche, « Veux-tu être guéri ?» Que répond-il ? « Je n'ai personne. » Il est rejeté. Je ne sais pas ce qui se passait dans cette piscine, mais je suis convaincu peut-être que celui qui a été guéri, parce qu'il était le premier à s'être déplacé, à avoir touché l'eau, être descendu dans l'eau, pouvait peut-être promettre à l'autre, « Ah, tu sais, si je suis guéri le premier, je penserai à toi. » Et puis, parole, il avait oublié, il partait. Et il dira, mais ça sort du fond de son cœur, la réponse de Jésus, « Je n'ai personne. » Comme s'il était rejeté. Il n'a pas de valeur pour qui que ce soit. Et c'est ainsi peut-être que tu penses que toi aussi tu n'as pas de valeur. Tu as peut-être été rejeté par tes parents. Tu as peut-être été rejeté par bien des personnes à qui tu te confiais. Tu as été peut-être rejeté par des gens dont tu n'aurais jamais soupçonné une telle manière de faire et d'agir. Et tu es là. Ça me fait penser à Lot. Vous savez l'histoire de Lot ? Il est à Sodome. La Bible nous dit, il est à la porte de la ville. La porte de la ville, c'est là que se rendaient les sentences, les jugements. C'était un petit peu comme un tribunal, on discutait des affaires. Et quand Lot reçoit les anges chez lui, les gens viennent devant sa maison. Il dit, mais qui veux-tu être ? Tu veux être notre juge, toi ? Nous allons te faire pire qu'à eux. Il n'avait pas compris qu'en vivant avec ces gens-là, il ne leur faisait pas du bien, mais là, il se rend compte qu'il avait été toléré, mais qu'il n'était pas accepté, était rejeté. De toute façon, dans ce monde, la Bible nous dit, malheur à vous quand le monde dira du bien de vous. On ne cherche pas à voir le bien du monde, on cherche à voir l'approbation de Dieu. Ça, c'est important. Alors, il est là, rejeté. Dans la citerne, c'est aussi la citerne de la peur. Car il entend ses frères parler. Ses frères ne l'entendent pas crier. Ses frères ne l'entendent pas pleurer, soupirer. Mais lui, il les entend. Et que disent-ils ? Il les entend parler de la mort. Ils veulent le tuer. Citerne de la peur. Je ne sais pas ce que vous pensez d'être là, entre les mains de gens remplis de jalousie et de haine, et qui disent « Comment allons-nous le tuer ?» Peu importe le temps qui va se passer, mais pendant ce temps-là, ses pensées, son esprit en font des tours et des tours. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire ? La citerne de la peur. Peut-être vous-même, vous vivez dans la citerne de la peur. Peu importe les raisons, elles peuvent être pour votre travail, pour des menaces qu'on vous a faites. Là, c'est drôle, la plupart des choses qu'on nous pose comme questions, quand nous témoignons du travail parmi les personnes qui sont esclaves dans la rue, est-ce que vous ne risquez pas votre vie ? Systématiquement, c'est la première question qui revient. Moi, je vous avoue que je n'y pense pas du tout. Parce que si on commence à avoir peur de tout ce qu'on fait, moi, je vais commencer à avoir peur de prendre la voiture. Je vais commencer à avoir peur de sortir de chez moi. Et en plus, au-dessus de chez moi, il y a pas loin une petite piste d'un aérodrome. Alors, les avions passent au-dessus. Je vais continuellement avoir peur. Nos vies sont entre les mains de Dieu. La citerne de la peur. Et il y a des gens qui vivent dans la peur en permanence. Et la peur ne vient jamais de Dieu. c'est la foi qui vient de Dieu, la confiance dans le Dieu qui est vivant, qui est présent, qui agit et à qui nous appartenons, la citerne de la peur. Puis, dans cette citerne, il est là, il ne peut pas se dégager, la citerne de l'hypocrisie. Il entend, lui, Joseph, qui aime son père, qui aime ses frères, qui aime sa famille, il les entend dire, on va faire croire à notre père qu'un animal sauvage l'a tué et nous allons renvoyer ses vêtements imprégnés de sang. Comment vous appelez ça? Quelle hypocrisie! Vivre dans l'hypocrisie. Vous savez, même du temps de Jésus, ça existait. Puisque Jésus, c'est le reproche qu'il faisait aux pharisiens. Il leur reprochait leur hypocrisie. Dans les derniers temps, c'est un des signes de la moralité de notre monde. Il y en a bien d'autres, mais il parle d'hypocrisie. Et plus que jamais, attention, l'hypocrisie qui peut même toucher le domaine religieux. Que Dieu nous garde. Qu'il puisse nous rendre vrais en lui. Et s'il vit en nous, nous sommes vrais. Que Dieu soit glorifié. L'hypocrisie. Voilà ce qui... C'est incompréhensible. Et il pense à son père. Et alors, son père va se faire toutes sortes d'idées, de pensées. Mais alors, je l'ai envoyé, c'est moi qui l'ai envoyé. Un lion l'aura tué, l'aura dévoré, et il va se culpabiliser. Mais si j'avais su, j'aurais jamais envoyé. Toute sa vie, il va garder ce souvenir. Il va se culpabiliser. Il ne s'en remontera jamais par l'hypocrisie. La citerne de l'hypocrisie. Et peut-être, c'est vrai, tu es touché, profondément affecté par ce que tu entends et tu sais que ce n'est pas vrai. Peut-être parce qu'on a dit de toi et qu'il n'est pas vrai. Et tu es là, tu dis, mais j'en reviens pas, ne te laisse pas. Ne baisse pas les bras. N'accepte pas de mourir dans la citerne. Et enfin, encore deux points que j'aimerais souligner. C'est la citerne de la solitude. À partir du moment où il a été jeté, il est seul. Ils le feront remonter et ils le vendront. Il est seul. Vous me permettrez de vous dire, sans vouloir broder en quoi que ce soit, vous me permettrez de vous dire... Je suis sûr que quand ils l'ont fait remonter la citerne et qu'ils l'ont vendue à cette caravane qui passait, ça m'étonnerait que ses frères soient allés le trouver avec une bonne accolade et l'ont embrassé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous le comprenez? Ils l'ont vendu seul. Vous imaginez? Quand il est parti, il a salué son père, il a salué sa famille. Et là, ses frères ont peut-être tourné le visage. Il tombe entre les mains, il est esclave, entre les mains de ceux qui l'achètent. Et là, on ne le reçoit pas avec, j'allais dire, des baisers fraternels ou paternels. On ne le reçoit pas avec des accolades. On le reçoit comme un esclave. C'est marche. Je ne m'en tiens qu'à cela. La solitude vendue. Peut-être qu'il essaie de dire ce qui se passe. Mais écoutez, vous ne pouvez pas me prendre, mais ce n'est pas possible. Mais eux, ce sont mes frères. Il ne peut même pas s'expliquer. On le fait taire. Tu es un esclave. Tu n'as pas droit à la parole. Incompris. Il ne peut même pas partager avec les autres. Peut-être que tu vis cela, tu te sens seul. Tu passes par le désert. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Tu ne peux pas partager. Ton espérance, ta foi, tu ne peux pas partager ton épreuve, tu ne peux pas partager même peut-être ton échec, parce qu'il peut y avoir des échecs dans la vie. Vous savez, un jour, un frère me disait ceci, il a été béni, et puis un jour, il a eu des difficultés, il a commis des erreurs, et ce frère, qui est maintenant avec le Seigneur, m'a dit ceci, Guy, quand tu fais du bien en oublie. Mais il suffit qu'une fois, tu t'égares, tout le monde le sait. Quelle solitude! Tu es peut-être dans le chemin de la solitude. Et la dernière citerne que j'aimerais dire, c'est la citerne de la souffrance. Alors je ne parle plus de la souffrance morale, je viens d'en parler, mais physique, on l'a jetée. C'est comme si on vous faisait tomber d'un mur de 3 mètres de haut, on vous y jette dedans. À moins d'être un sportif de haut niveau, on apprend à bien tomber, sinon on risque quand même d'avoir des contusions, des bleus, en tout cas de se faire mal. Je ne vais même pas jusqu'à des membres cassés, mais malgré tout, on peut avoir des souffrances. Et à la souffrance morale peut s'ajouter la souffrance physique. Et tu es là souffrant physiquement, c'est comme si tout s'accumulait, tout te tombe dessus, tu es vraiment dans la citerne. Alors tu ne comprends pas, toi qui aimes Dieu, toi qui veux t'approcher de Dieu, toi qui as un respect concernant Dieu, tu es dans cette citerne. Peut-être tu ne le connais pas encore, mais tu t'y trouves et tu te dis, mais alors, qui peut nous aider? Ça arrive même à des gens qui craignent Dieu. Regardez ce que dit le psaume 40. Je vais vous lire quelques versets, vous n'êtes pas obligé de les chercher. Mais dans le psaume 40, l'auteur du psaume 40 dit au verset 1er, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. » Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. » C'est très riche ça déjà, hein ? Il a mis sa confiance en Dieu, Dieu l'a relevé. Il dit « Beaucoup l'ont vu, ils ont été témoins de l'intervention miraculeuse de Dieu et à leur tour, ils en ont eu la crainte. » Vous retenez bien cela ? On en reparlera tout à l'heure. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça vaut la peine que je continue à m'accrocher à Dieu? Est-ce que ça vaut la peine que je le prie ce soir? Est-ce que je peux m'attendre à lui? Oh oui. Voilà ce que dira le livre de Job, au chapitre 33. Et j'aimerais lire encore ces quelques versets avec vous. Job 33. Job 33. On va lire quelques versets avant ceux qui nous intéressent. Au verset 19, « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse, etc. Là, le verset que j'aimerais retenir, Dieu dit, « S'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, alors il va exaucer. » Et il va le sortir de la fosse. Alors vous allez me dire, est-ce que vous connaissez un ange, Monsieur Galifot ? Il y a l'ange Gabriel, il y a Michael, il n'y a pas Guy. Alors je ne peux pas intercéder, je ne sais pas s'il y a un Gérard, mais je ne vais pas parler de ces anges-là. Dieu a trouvé plus qu'un ange. Dieu a trouvé un intercesseur parfait, par excellence, et vous connaissez son nom. Il a trouvé le Fils bien-aimé qu'il a envoyé sur terre et qui a intercédé Jésus-Christ. Il a intercédé avec larmes, dira la parole de Dieu. Il a intercédé avec grand cri, dira la parole de Dieu, pour le salut des hommes. Il a intercédé pour leur délivrance. Il a intercédé jusqu'à la mort. Il a intercédé dans l'agonie. Sa transpiration s'est transformée en grumeaux de sang. Il a intercédé pour le salut des hommes, pour la libération face à l'emprise du diable sur leur vie. Il a intercédé jusqu'à la mort. Il est allé dans le fief du diable. Et là, il a vaincu le diable, les démons, les anges. Que Dieu soit béni. Et la Bible nous dit, maintenant, il est ressuscité, il est dans le ciel et il intercède pour nous. J'ai trouvé plus que l'ange Daniel, ou pardon, Gabriel ou Michaël. J'ai trouvé le Fils de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que on ne peut parler que du nom de Jésus. Et quand Jésus intervient, d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre Joseph, la vie de Joseph et de Jésus. Hein, mais je ne vais pas vous le faire maintenant. D'ailleurs, peut-être le frère Gérard Gault l'a fait déjà avec vous. Mais je veux dire simplement, il a trouvé et il relève de la fosse. Ah, que Dieu soit béni. Vous savez, celui qui intercède pour nous, il sait comment intercéder parce que lui, il a connu tout cela. Il a connu le rejet. Même avant de naître, Joseph voulait abandonner Marie. Heureusement que Dieu est intervenu. Il dit non, garde ta femme, elle est précieuse. Il a connu le rejet par ses frères, ses parents, le peuple, et j'en passe. Il a connu la citerne de l'hypocrisie, le peuple qui venait. Nous voulons te poser une question, maître. Hypocrite. D'ailleurs, il le dira. Toutes ces citernes, il les a connues. Toutes. Même la souffrance physique, il l'a prise sur son corps. Et quand il intercède en notre faveur, je crois en l'intercession de notre Sauveur Jésus. Non seulement il a payé le prix sur la croix, mais il est vivant et il intercède pour nous, pour nous libérer, nous délivrer. À Dieu soit toute la gloire. Et vous remarquerez que Joseph est vendu, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui reste dans le cœur de Joseph. Il n'oubliera jamais ce que Dieu lui a dit par les songes. Ce qu'il a dû apprendre par son père Jacob, qui est quand même un patriarche, et la crainte de Dieu. Le résultat, il est vendu, on sait qu'il est esclave, on sait qu'il est mis en prison injustement, etc. Je passe sur les détails, vous le lirez. Mais néanmoins, la réalisation de ces songes se manifeste, il va devenir le second personnage d'Égypte. Ce serait bien s'il y avait un Joseph actuellement, hein, qui s'élève. Ce serait formidable. C'est une petite parenthèse. Et quand il arrive à la fin de sa vie, c'est là où j'aimerais que vous compreniez. Genèse chapitre 50, regardez ce qu'il dit. Genèse chapitre 50. Verset 20. Verset 19. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph, à la deuxième place d'Égypte, par la providence de Dieu, à nouveau, il entrera en contact avec ses frères. Il se fera reconnaître dans un temps difficile, un temps de famine, et il dira, allez chercher mon père, allez chercher ma famille, et amenez-les ici. Je vous donnerai le meilleur coin de l'Égypte, et je vous sauverai, vous aurez de quoi manger. Et puis, alors, tant qu'il y a le papa, tout le monde est heureux. Il bénéficie de l'autorité de Joseph, de la protection de Joseph, de la nourriture par Joseph, et puis voilà que le papa Jacob meurt. Ses frères commencent à avoir peur. Ils ne peuvent pas oublier. Tant qu'on n'a pas réglé cette chose avec Dieu, on ne peut pas oublier. Ça, c'est un autre sujet, la conscience. Mais ça, ce n'est pas maintenant. Et alors, quand le papa est mort, les obsèques sont faites, et ils appellent Joseph, dit, « Pardonne à tes frères. » Puis avant de mourir, le père, il a dit, allez dire à votre frère qu'il vous pardonne. Et c'est alors que Joseph leur dit, mais écoutez, il y a deux choses que j'aimerais retenir. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une citerne, ou je dirais dans la citerne, vous subissez tout ce que je viens de dire maintenant. Mais une chose est certaine, Dieu veut le changer en bien. Parce que Jésus, sur la croix, a vaincu l'ennemi. Parce que Jésus est le grand vainqueur de la mort, de la souffrance, de tout le mal, de tout le rassemblement des uns et des autres. Parce que Jésus a vaincu, il veut vous rendre vainqueur avec lui. C'est la première chose. Donne ta vie à Jésus. Repens-toi. Même au travers de ce que tu souffres, peut-être que Dieu veut t'éclairer sur ta propre vie à toi-même, sur tes propres sentiments. Il veut te faire remporter une victoire sur les autres, mais aussi en toi. Il va changer le mal en bien, et ça je le crois. Il change toujours le mal en bien. La deuxième chose qu'il va leur dire, il faudrait lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 45. Alors ça, versets 5 à 8, je vais vous le lire très rapidement. Verset 5, 45. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous. » Pour vous faire subsister dans le pays et vous faire vivre avec une grande délivrance. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu et il m'a établi père de Pharaon. C'est la foi de ce jeune homme, ou de cet homme. Il dira, c'est vous qui avez été les agents humains, les agents exécuteurs du plan de Dieu, qui m'avez jeté dans la citerne. Mais par-dessus tout, c'est Dieu qui m'y a envoyé. Parce qu'il avait le plan de sauver toute notre famille. Et il a tellement grandi avec le Seigneur que sa foi l'a amené à réaliser que derrière des événements, derrière des circonstances, il y avait même la providence de Dieu. Vous imaginez la foi? Moi, je trouve ça extraordinaire. Les paroles de Joseph m'ont souvent interpellé lorsque des fois j'ai... Parce que je suis un être humain, je ne comprends pas. Et il y en a bien des choses que je ne comprends pas. Il y a des fois, vous n'êtes pas comme moi, on n'a pas envie de se révolter. Il n'y a pas des choses qui parfois sont, comme disait Calibero, c'est trop injuste. Ou autre chose. Il y a bien des fois, Seigneur, je ne comprends pas, mais pourquoi je suis passé par là? Et puis, avec le recul du temps, Seigneur, il fait tout à merveille. Et chaque chose belle en son temps. Alléluia. C'est formidable. Vous imaginez la foi de Joseph? Il réalise deux choses. Dieu change le mal en bien. Et il dit, c'est pour vous sauver que Dieu... Ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous sauver. Permettez-moi de vous dire, d'abord, il se passe un miracle dans la vie de Joseph. Le mal est changé en bien. Et ensuite, le deuxième miracle, le bien... que Dieu lui fait, va faire du bien aux autres. Et c'est ce que nous avons lu dans le psaume 40 tout à l'heure. Beaucoup l'ont vu et ont cru. Croyez que Dieu est avec vous. Vous qui avez donné votre vie à Jésus, qui vous êtes repenti, qui lui avez confié toute votre existence, tout de vous lui appartient. Croyez qu'il vous garde, qu'il vous guide, qu'il vous dirige. Faites-lui confiance. Il vous conduira. Et même ce qui vous paraîtra comme peut-être des échecs, des questions qui surgiront dans votre vie, Dieu va s'en servir pour vous faire grandir dans cette foi qu'a connue Joseph, plus encore, pour vous soyez en bénédiction aux autres. Et ça, c'est notre désir. Vous n'avez pas envie d'être en bénédiction aux autres? Pourquoi vous témoignez? Pourquoi vous louez? Pourquoi vous distribuez des prospectus? Pourquoi vous venez vous enrichir de la bonne parole de Dieu? Pour apporter ensuite, pour être en bénédiction. C'est ce que Dieu veut faire. À lui soit toute la gloire. Seigneur, tu es formidable. Je lisais dernièrement un court témoignage. C'est en Afrique que cela se passe. Je ne sais plus dans quel pays. Mais c'était un chrétien africain qui est allé trouver le pasteur qui lui a demandé de prier pour qu'il y ait une bonne saison de pluie, afin qu'il y ait des ignames. Les Africains savent ce que c'est que les ignames, pour manger, etc., pour avoir une bonne récolte et aller la vendre. Alors, le pasteur dit, ben, nous prierons. Pas une goutte de pluie. Alors, le chrétien se posait des questions. C'est un peu d'un citerne. Et puis, le moment de la récolte des ignames est arrivé. Dans toute la région, il n'y avait pas d'ignames, il n'y avait que ces champs qui en avaient. Il n'avait pas plu, mais il avait des ignames. De telle sorte qu'il a pu en vendre beaucoup. Je ne dis pas qu'il s'est enrichi, mais il a bien vécu et il avait des réserves. Alors, il est allé trouver le pasteur, il lui a dit, je ne comprends pas. J'avais demandé qu'il pleuve, et puis Dieu n'a pas fait pleuvoir. Et j'ai bien aimé la réponse du pasteur, il a dit, Dieu n'a pas entendu vos paroles, mais il a lu les sentiments de votre cœur. Vous vouliez avoir des ignames, ben vous avez les ignames, même sans pluie. J'ai bien aimé cela. Eh oui, Dieu sonde le cœur. Il sait pourquoi nous prions. Il sait nos sentiments. Et même si nos paroles ne sont pas toujours bien adéquates, bien choisies, bien qualifiées, ça ne fait rien. Dieu sait le reste. Il connaît nos sentiments. Tu sais pourquoi je te le demande, Seigneur. D'ailleurs, Dieu entend même les soupirs que nous exprimons parfois. Alors, à plus forte raison, en tout cas, Joseph est sorti de cette citerne. Dieu était avec lui. Et il est sorti enrichi. Il est sorti pour enrichir. Il est sorti avec une foi remarquable. Il a été en bénédiction. Même pour les Égyptiens, qu'il a sauvés également. Quand Dieu fait une œuvre, l'œuvre de Dieu en nous, elle peut avoir des répercussions, même sur notre lieu de travail. Je pourrais en citer des exemples. Là où il y a un chrétien qui est un vrai témoin de Dieu, qui travaille, l'endroit où il travaille est béni. L'endroit où il travaille est béni. Je pourrais le dire de bien des endroits. Que Dieu nous aide à avoir cette foi en Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est passé par les citernes, lui aussi. Alors il me comprend. Et maintenant il intercède. Et il intercède pour que ma foi ne défaille point, comme pour Pierre en son temps. Seigneur, il doit prier que la foi de Guy ne défaille point. Que la foi d'Audrey ne défaille point. Que la foi d'Isabelle ne défaille point. Seigneur, garde-les en ton nom. Et puis qu'ils soient en bénédiction partout où ils iront. Que Dieu soit béni. Ah, j'aime cette parole de Dieu. Elle est formidable. Et le Dieu de la parole, il est extraordinaire. J'aime ce sauveur. Mon Rédempteur est vivant, disait Job. Dieu a trouvé, plus qu'un ange intercesseur, le Fils de Dieu, qui a vaincu la mort, qui n'a jamais commis le mal. Celui qui pouvait dire à son Père Céleste, « Je te loue de ce que tu m'exauces », toujours. Et dans le ciel, il est exaucé. Dans le ciel, il est au courant de chacune de nos situations. Dans le ciel, il connaît les citernes dans lesquelles nous sommes. Et dans le ciel, il prie pour chacun d'entre nous. À lui soit toute la gloire. Est-ce que vous le croyez ce soir? Moi, je le crois personnellement. Nous allons prier le Seigneur quelques instants, le louer, le remercier tout simplement. Tandis que nous nous inclinons, y a-t-il quelqu'un ce soir qui se trouve comme dans une citerne, qui est là en pensant, moi, je veux pas savoir quel nom de citerne, c'est le rejet, c'est l'hypocrisie, c'est autre chose. Y a-t-il quelqu'un qui se trouve dans la citerne ce soir et qui aimerait que le Seigneur le visite, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur l'encourage? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait que l'on prie avec lui ou avec elle? Maintenant, y a-t-il quelqu'un? Que cette personne se lève, s'il vous plaît. Levez-vous à votre place, là où vous êtes, hein, et attendez-vous à ce que celui qui intercède pour nous agisse dans votre vie ce soir. Alléluia. Vous levez, c'est devant Dieu. Dieu qui connaît vos sentiments. Dieu qui entend les paroles profondes et secrètes de nos cœurs. Dieu qui lit dans nos pensées. Vous qui êtes dans la citerne, vous êtes là devant le Seigneur de gloire, devant celui qui a relevé Joseph. Alléluia. Devant celui qui vous relève ce soir, moi je le crois. Alléluia. Si quelqu'un d'autre veut encore se lever, il peut le faire librement. C'est devant le Seigneur, ce n'est pas devant Guy Galifot. Guy Galifot n'est pas l'intercesseur, c'est Jésus, notre Sauveur, qui intercède. Que Dieu soit béni. Frère Girago, veux-tu venir prier pour ses bien-aimés? Alléluia.
Notre Père, notre Dieu, qu'il nous est doux d'entendre ta parole. Qu'il nous est doux d'entendre que tu règnes sur tout. Qu'il nous est agréable de nous souvenir que tu changes le mal en bien. Que tout dans les cieux et sur la terre t'appartient. Seigneur, tu nous as bénis au travers de cette histoire et nous croyons que si ça a été écrit, c'est pour notre instruction. Nous croyons, Seigneur Jésus, que si tu as voulu que cette histoire soit là dans le canon des Écritures, c'est pour nous parler et pour nous bénir. Si tu as sorti ce jeune homme de ce trou pour l'amener sur le trône d'Égypte, Seigneur, nous savons que tu peux tout et que tu peux élever un homme, une femme, un jeune homme, comme tu veux, pour ta gloire, avec les personnes que tu veux, même avec même ses ennemis. Tu vois ces bien-aimés qui viennent de se lever, tu connais la foi dans laquelle ils se lèvent et ce que nous savons surtout, c'est ta grâce qui se déverse sur eux maintenant. Merci, oui, merci d'être cet intercesseur qui intercède à la perfection auprès du Père pour continuer à déverser ta grâce et ta miséricorde sur nos vies. Merci pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ta bonté qui veut se déverser sur Toulouse. Oui, tu as béni la famille de Joseph et tu as béni l'Égypte au travers, Seigneur, de ce jeune homme. Et nous croyons que par une église, tu peux également bénir une ville, même qui est sous la malédiction. Seigneur, nous voulons voir, oui, que toi, tu peux changer le mal en bien. Merci. Merci encore, Seigneur. Et comme l'a dit l'apôtre, nous voulons considérer toutes les épreuves comme un sujet de joie, sachant que cette épreuve contribuera à notre perfectionnement. Seigneur, merci pour ces moments. Que ton nom soit béni. Et si quelqu'un est dans la fosse de la souffrance, oui, tu as le pouvoir de le guérir maintenant. Oh, nous comptons, oui, sur tes meurtrissures au calvaire. Nous savons que tout ce que tu as accompli sur la croix amène la bénédiction sur l'humanité. Seigneur, merci. Merci de nous avoir donné cette soirée. Bénis encore cette équipe qui va travailler dans la ville, Seigneur, pour l'évangélisation des perdus. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.